Quotidien 5e édition avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour Francine Forget.
Bonjour Yvan Deslauriers.
Bonjour Mathieu Tessier.
Bonjour c'est Francine quoi, et Yvan, je ne sais pas.
C'est quoi son nom de famille à lui?
Généralement, c'est moi qui est confuse par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe ce matin?
Ah, une mauvaise nuit, c'est tout.
Une mauvaise nuit. Bon.
Nous sommes vendredi, 24 mars, et ça commence à sentir le printemps.
Ce matin, c'était presque le printemps. Il y avait un vent frisquet,
oui.
Mais c'était très bien. Cependant, profitons-en aujourd'hui. Parce que savez que ce week-end...
Il y a de la neige.
Et je sais que si vous allez dans les Laurentides, ça peut aller jusqu'aux 15-20 cm.
Oui, puis c'est de la grosse neige.
Oui, mais ça, il y a un avantage. On peut faire des sculptures, bonhommes. On peut faire des bonhommes de neige. Mm-hmm.
On peut sortir son scooter et pas s'en servir.
Oui, c'est ça.
Exactement.
Je pense qu'à Montréal, c'est moins... C'est comme 10.
Ça pourrait être de la pluie, peut-être, mais elle est de neige...
Moi, mon vélo dans le garage, il commence à me parler. Il dit, va faire ma mise au point, qu'on puisse aller ensemble. Alors, non, on s'en va dans le bon sens. Moi, j'aime ça l'hiver, mais on s'en va dans... J'aime le printemps. Quand ça change, là, j'aime ça.
Puis, quand on est rendu là, on est rendu là.
Oui, c'est écrit dans le calendrier, d'ailleurs, depuis la semaine passée. Depuis le début de la semaine.
Non, c'est alors, cette semaine, là.
Oui, c'était mardi. Oh non, c'était lundi, le 20.
Oui, mais c'était dans la nuit. C'était mardi, mais c'est parce que c'était dans la nuit.
22h24.
Ah, c'était 22h24. Je croyais que c'était la nuit. Moi, j'avais compris 2h.
Ben, 22h24, c'est quand même... Il ne fait pas clair.
Non. Pas encore. 22h24.
À Montréal, il ne fait pas clair. Ça,
ouais.
C'est ça.
Merci, Mathieu.
De la précision. Et Francine, qu'est-ce que vous avez retenu cette semaine?
Ah, tellement de choses variées, mais je me suis arrêtée plus tôt sur un texte de Rima El-Khoury. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'événements qui arrivent et, mon Dieu, on les traite, je dirais, notre mémoire est conditionnée à ce qu'on lit ou on écoute dans les médias, dans le sens où on en parle beaucoup, beaucoup quand l'événement arrive. Les jours qui vont suivre, après ça, on oublie. Et c'est vraiment triste parce que parfois, il y a des mesures qui devraient être posées. Il y a des rapports d'enquête qui sont produits, qui sont tablettés et il n'y a rien qui se passe. Et je pensais, en lisant ce texte de Rima El-Khoury qui porte sur une femme qui a la COVID longue,
qui est
en plein là-dedans encore. Oui. Je pensais au Airbnb, d'ailleurs, dont je vais vous parler tantôt, à ce qui s'est passé dans le Vieux-Montréal. Est-ce qu'il y aura des suites à ça, des suites concrètes, compte tenu du nombre de morts? La semaine passée, quand on en a parlé, on a beaucoup parlé du patrimoine, qu'il y avait des gens qui manquaient à l'appel, mais on n'était pas encore rendu à dénombrer les morts et même à mettre des visages, c'est une façon de parler, là, parce qu'évidemment, ils ont brûlé, mais à savoir qui ils étaient, quelle était leur identité.
Mais rappelez-vous, la semaine dernière, à cette heure-ci, là, on parlait d'une personne.
Oui, on parlait d'une personne. Et là, on voit que c'est pire. On voit aussi tout l'environnement. On va en parler un petit peu tantôt. Mais ce texte de Rima El-Khoury, qui s'intitule « Sa belle Julie avant et après », c'est qu'elle a reçu un message du conjoint, Mathieu Préfontaine, de Julie. Mm-hmm. « Je t'aime, ma belle Julie, ton aidant, pas si naturel.
Oui. »
Et il explique jusqu'à quel point cette femme, Julie, qui était adéquatement vaccinée, avait jamais eu de problème de santé, elle trouve encore de la force et une lueur d'espoir. C'est une femme d'affaires accomplie, une joggeuse, une nageuse.
Oui, c'est une femme très
elle
active.
N'est plus que l'ombre d'elle-même. Et je ne veux pas revenir trop longtemps parce que de toute façon, on n'a pas beaucoup de temps pour traiter de ça, mais l'idée derrière tout ça, c'est qu'il ne faut pas oublier, la COVID, elle existe encore. Il y a encore des gens qui l'attrapent et il y a encore des gens qui vont en subir des conséquences pendant très, très longtemps. Mm-hmm. Cette dame, elle était vaccinée.
Elle est toute jeune.
Elle est toute jeune et maintenant, elle est dans une autre vie complètement. Elle dit, elle, et c'est, je vais finir sur ce message qui est une forme d'espoir, qu'elle a l'impression que toute son ancienne vie l'a préparée à cette épreuve. quand je faisais de la gestion de crise, fallait toujours avoir un plan B, un plan C, avoir la capacité de se retourner et d'agir. Voilà pour ce merveilleux papier d'Irima El-Khoury.
De mon côté, moi, j'ai été à Québec pendant quelques jours cette semaine pour des raisons d'élections. Moi, je travaille dans les élections quand il y en a. Là. C'est un retour sur les dernières élections provinciales. Mais ce qui m'a frappé surtout, c'est que c'est ce qu'on n'entend pas parler. On n'entend pas parler du troisième lien. Et c'est comme si on a l'air de penser que si on n'en parle pas, un moment donné, on va dire « Oh, c'est trop cher, c'est trop ci, c'est trop ça. » Alors, toutes les motivations qui servaient à dire « ça nous prend quelque chose », ils ont l'air de... Non seulement ils n'ont pas l'air de dire « on va mettre ça de côté », on n'en parle tout simplement pas.
Mais vous savez, Yvan, moi, je ne suis pas une spécialiste des finances, mais on a dit qu'il n'avait pas été budgétisé dans le budget qu'a présenté le ministre des Finances cette semaine.
Oui, c'est ça. Alors, oui, le budget, là, c'est plus intéressant ce qu'il n'y a pas que ce qu'il y a dedans, dans celui qu'on a eu.
Dans ce cas-là, oui.
Dans l'émission d'aujourd'hui, Francine, vous êtes très active dans l'émission d'aujourd'hui.
Ah, comme toujours.
Oui, mais particulièrement aujourd'hui.
Ah, particulièrement aujourd'hui. Bon, la chronique histoire de Marcel Dugas, je trouve que c'est tout à fait à propos parce qu'il y a beaucoup de mouvements, n'est-ce pas, depuis quelques années, de déplacements de gens entre les villes. Il va nous parler des 10 villes les plus peuplées du Québec à partir du début 20e jusqu'à nos jours, 20e siècle jusqu'à nos jours. Au-delà des limites, je vais recevoir François Bernier, un chef d'entreprise handicapé qui prône l'inclusivité. Et vous, de votre côté?
De mon côté, je parle avec Francine Forget sur des choses qui touchent la technologie.
Mais pas de chat, GPT.
Ben non, et j'étais un peu déboussolé.
Ben, je vais vous dire tout ce que j'aurais pu parler et je vais vous dire pourquoi j'en ai pas parlé.
OK. Et je parle aussi avec Carole Froment, qui est coordonnatrice au développement philanthropique et aux communications chez Centre de l'intégration à la vie active. Elle va nous parler de deux événements qui s'en viennent très, très, très prochainement pour cette association-là. Et on commence avec cette chanson et je vous mets vraiment au défi de trouver les deux personnes qui vont chanter.
Dis-moi pourquoi tu es mon seul problème. Dis-moi pourquoi tu es mon seul souci. On récolte la vie que l'on sait aimer. Et quand vient l'amour, on est un peu surpris. À cause de toi, je ne suis plus le même. Moi, par ta faute, j'ai changé aussi. Je ne sais pas où ça nous entraîne. C'est la chance ou bien c'est de la folie. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu y ressembles. Quand je m'éloigne, toi tu te rapproches un peu. Si ce n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. J'ai un problème, je sens bien que je t'aime. J'ai un problème, c'est que je t'aime aussi. Ces mots-là restent toujours les mêmes. C'est nous qui changeons le jour où on les dit. J'ai un problème, j'ai bien peur que je t'aime. J'ai un problème, j'en ai bien peur aussi. En perdant, on y gagne quand même. Puis après tout, on n'a pas choisi. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu y ressembles. Quand je m'éloigne de toi, tu te rapproches un peu. Si ce n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant qu'il sait peut-être mieux. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne, toi, tu te rapproches un peu. Si ce n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux.
La chanson « J'ai un problème ».
Oui, qui était originellement chantée par Sylvie Vartan et Johnny Hallyday.
Hmm.
Mais c'était pas eux.
Non, pas du tout. Est-ce que Francine, on essaie une réponse?
Non.
Moi, honnêtement, comme je vous disais en hors d'onde, j'avais reconnu David Portelance, mais je n'avais pas reconnu André Sauvé.
André Sauvé, hein? L'humoriste. Alors, je trouvais que c'était une intéressante... questions à vous poser. Et on se tourne vers Francine pour les Unes de Montréal.
C'était aussi une très, très belle chanson. Merci, Yvan, pour ce choix. Les Unes. Je vais d'abord vous parler de Airbnb. Des Airbnb problématiques. Pas de gicleurs, fausses fenêtres, mais un permis de Québec et Montréal. Nos journalistes, alors on parle ici des journalistes du Journal de Montréal, ont visité des logements problématiques qui sont offerts en location par des hôtes Airbnb dans d'autres immeubles d'Émile Haim Benamor. Alors ça, c'est le propriétaire de celui qui a été incendié la semaine dernière dans le Vieux-Montréal. Oui, il en possède plusieurs. Alors, ce qu'ils ont fait, les journalistes, c'est intéressant. Et je dois vous dire que je me suis intéressée à cette question ce matin parce qu'on est à l'aube, à quelques heures, de l'entrée en vigueur de la loi 67. Alors, cette loi, elle autorise l'allocation de nos résidences principales.
Oui.
Mais... pour 30 jours maximum.
Mm-hmm.
Bon, alors, comme on a de la difficulté à faire respecter les réglementations actuelles, on peut se poser la question comment on va faire pour ces locations à très courte durée. Ils ont visité, ils ont d'abord consulté les journalistes des annonces qui étaient publiées sur le site, sur la plateforme. Ils se sont arrêtés à, premièrement, des annonces de logements au 421, 423, 425 et 427 avenue Vigée. Et certains, on pouvait les louer à la nuit ou pour une période plus prolongée. Ce qu'on comprend, c'est que dans l'annonce, d'ailleurs, donc, qu'on reproduit, on voit qu'on affiche toutes les caractéristiques et qu'on a rayé détecteurs de monoxyde de carbone et détecteurs de fumée.
Aye.
Cependant, c'est faux parce que celui qui a été loué, en tout cas le 423 vigé par le journaliste, il y en avait un détecteur de fumée fonctionnel. Cependant, il n'y avait qu'une petite fenêtre complètement barricadée parce qu'on avait mis dedans, vous savez, des protecteurs là, en fer pour justement éviter l'introduction par effraction dans le cas d'un vol, parce que c'est quand même un secteur qui, disons, est peut-être le plus tranquille de Montréal. De cette manière.
Mm-hmm.
On s'est aussi rendu dans une auberge de jeunesse qui appartient toujours à M. Benamor, qui est située dans le Vieux-Montréal. Et là, il paraît que c'est vraiment... Il faut être fait fort pour entrer dans cet immeuble, pour retenir sa respiration, parce que dans l'escalier, il y a des odeurs d'acre, de moisissure, de renfermé, et ça empeste tout le document. Et
le bâtiment, probablement.
J'ai dit le document?
Oui.
Oui, c'était le bâtiment, effectivement. Merci, Yvan. Et la chambre non plus n'avait pas de fenêtre.
Hmm.
Alors, quelle sera la suite? Je reviens, je vais faire une petite boucle avec mon premier sujet. Quelle sera la suite de tout ça? J'ai bien hâte de voir, parce que cette semaine, on s'est beaucoup renvoyé la balle municipale, ministre de l'Habitation et du Tourisme. C'est à suivre.
C'est aussi le fait qu'on est le 20 quelque chose, 24 mars aujourd'hui. L'été s'en vient. J'imagine que ces endroits-là vont être loués de plus en plus pendant la prochaine période.
Sûrement que certains sont déjà loués.
Oui.
Pour certaines périodes... Je pense à des périodes de pointe. Mm-hmm. On n'attend pas la semaine avant. Mm.
Sauf que si vous étiez à l'étranger puis que vous lisiez ce qui s'est passé la semaine dernière, je ne sais pas si ça vous ferait hésiter.
Peut-être, peut-être. Mm-hmm. Du côté du devoir, billets et prix s'envolent au FEC. Alors, le FEC, oui, c'est le Festival d'été de Québec. Annabelle Caillou rapporte une situation qui n'est pas propre à ce festival, il faut le dire. Mais mercredi, ça a pris 2 heures pour écouler tous les laissez-passer en admission générale pour la 55e édition. C'est du jamais vu. Alors, immédiatement après, les responsables, l'équipe du festival s'est réjouie, a publié un communiqué et qui a dit « Wow, vous êtes incroyable, c'est un record. Merci de votre enthousiasme encore cette année. » Au même moment, il y avait des commentaires de déception et de colère, des mélomanes qui avaient pu obtenir un billet et qui voyaient que les prix de vente avaient explosé. Pourquoi? Parce que encore une fois, on avait affaire à de la revente. Mm-hmm. C'est assez triste, cette situation qui se multiplie à peu près à chaque fois qu'il y a des événements importants. Soit il y a des robots qui achètent en grande quantité ces billets, et, ou encore ce sont vraiment des revendeurs là, qui sont vraiment bien organisés.
Je pensais qu'il y avait
réussissent à le faire.
Je pensais qu'il y avait des limites au nombre de billets qu'on pouvait, même un robot pouvait acheter. Là,
je ne sais pas comment on fonctionne, mais peut-être qu'à une seule fois, oui. Mais si on répète après un certain temps, peut-être possibilité d'en prendre plus. Je ne connais pas la mécanique, honnêtement, je ne peux pas vous l'expliquer. Mais souvent, c'est ce qui se passe sur le web. Hein. On essaie de faire des choses, puis on se rend compte à un moment donné, si on répète, on répète, on répète, qu'après 10, 15 minutes, et même peut-être avant, là, ça ne sera plus possible, mais tout de suite après, on va pouvoir le faire. Mm-hmm. On va pouvoir le faire. Le 24 heures tire un trait sur le papier. Alors, on parle du journal qui était distribué gratuitement dans le métro de Montréal. Il a publié sa dernière édition papier jeudi dernier. Alors, il n'y aura plus, je m'excuse, de journaux dans le métro.
Dans le
c'est
métro,
ce qu'on doit conclure.
Ça,
hein? Oui, il va être désormais 100% numérique, comme le métro, le journal Le Métro l'avait déjà fait il y a quelques années, en 1921, pendant la... En 2021.
Donc, il y avait un journal avant le métro.
Avant le métro. Ça, c'est fort. Et vraiment, ce matin, on est un peu dans l'extravagance, je dirais. Alors, 2021 pour la disparition du journal papier dans le métro, mais qui continue sur le plan numérique. Donc, on va avoir la même chose du côté du 24 heures.
Ça veut dire qu'il va rester finalement Le Devoir puis le Journal de Montréal comme... Journal papier?
Oui, et le Journal de Montréal, vous savez que maintenant, il y a une seule édition week-end.
Oui, c'est vrai.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ben oui, je savais.
On avait samedi, dimanche. Oui. Maintenant, il n'y a plus le dimanche.
Il n'y a plus le dimanche?
Non, non, il n'y a plus le dimanche.
Ben, le dimanche, je ne lis pas les journaux.
Et je termine brièvement, parce que c'est difficile de ne pas en parler ce matin, sur la Presse Plus, qui, elle, est entièrement numérique.
Depuis l'impasse,
oui, l'impasse est rompue. On parle ici du chemin Roxham. Alors, le président américain Joe Biden n'avait pas encore atterri à Ottawa hier pour sa visite d'État, qu'une entente émergeait sur l'épineuse question du chemin Roxham et des migrants qui franchissent la frontière canadienne de façon irrégulière. L'accord comme tel n'a pas encore été annoncé officiellement.
Non, c'est ça, hein?
On ne connaît pas les détails, mais déjà, il y a des organismes qui le critiquent avec virulence. C'est à suivre. On va voir. J'imagine au cours des prochaines heures, on devrait en savoir davantage.
Ça a l'air du genre « you're damned if you do and you're damned if you don't », là. Tu fais quelque chose, tu te fais critiquer, puis tu fais pas rien, puis tu te fais critiquer. Là,
c'est ouais, cool. Ben, faut dire que ces questions-là, c'est pas évident. Hein?
C'est ce que je pense. On se tourne vers Monique Kirouac. Le chemin Roxham, Monique, c'est dans les cantons de l'Est, ça, non?
Ben, c'est pas près.
Ah
oh,
non, pas vraiment, c'est vrai. Montérégie.
Je pense que c'est plus Montérégie.
Montérégie, oui.
Oui. Alors, je vous parle aussi du budget provincial, Yvan. Semble-t-il que les baisses d'impôts annoncées dans le budget 2023-2024 du gouvernement Legault ont reçu un accueil on ne peut plus glacial de la part des organismes communautaires de l'Estrie. Alors, Selon eux, cette mesure n'aide pas réellement les ménages à faible revenu, en plus de priver l'État de marge de manœuvre pour investir, par exemple, vous le devinez, en santé, dans les logements.
Ben oui.
C'est pas une grosse surprise.
Les logements sociaux, surtout.
Alors, on
hein?
croit que le gouvernement aurait pu bonifier les différentes prestations ou hausser considérablement le salaire minimum, par exemple, pour réellement aider les contribuables. Alors, si les commentaires des représentants du communautaire à l'égard du budget étaient majoritairement négatifs, il y a un point qui a semblé faire plaisir à tous. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est l'âge minimal d'admissibilité au régime des rentes du Québec, la RRQ, qui demeure à 60 ans, plutôt que de passer à 62 ans. Je vous parle également d'une réalité qui touche la province, mais semble-t-il aussi l'Estrie. Pas moins de 40 % des quelques 3 000 logements à loyer modique en Estrie sont en mauvais état, selon les données de la Société d'habitation du Québec. Et on estime à près de 50 millions, beaucoup plus, les coûts pour rénover les parcs de la région. Alors, la mise à jour du registre des bâtiments est négligée en raison du manque de ressources sur place. Grosse surprise, le directeur général de l'Office d'habitation de Coaticook, M. Reynald Drolet, assure par ailleurs qu'il ne s'agit pas d'un enjeu d'insalubrité, mais plutôt d'entretien. Les places sur les listes d'attente ne se libèrent donc pas. En date de décembre 2021, 831 ménages étaient en attente d'un HLM en Estrie, indiquent les données de la SHQ. À la grandeur de la province, je vous rappelle qu'on en comptait plus de 37 000.
Francine, vous aviez une
semble-t-il
question?
Semble-t-il que les 2,2 milliards échelonnés sur 10 ans que les gouvernements fédéral et provincial avaient mis en réserve, les fonds sont utilisés à d'autres fins. Alors, au lieu d'utiliser les sommes pour rénover les HLM, on les utilise pour financer la construction de nouveaux logements sociaux. Et on sait, les coûts vont en augmentant. Il n'y a rien qui se passe comme on veut, quoi.
Exactement. Mais, je vous arrête.
Excusez-moi, oui. Monique, j'ai une question.
Oui.
Puisque vous parlez d'habitation, on parlait d'Airbnb tantôt et
oui,
de l'application de la loi qui va entrer
oui,
en vigueur. Est-ce que c'est un dossier dont on parle beaucoup parce qu'il y a plusieurs régions là, qui, évidemment, ne sont pas d'accord? Est-ce qu'il y en a été question dans la vôtre?
Il y en a été un peu question, en effet. Je sais que pour certaines municipalités, on ne permet que de la location à long terme. Mais c'est ça. Et il y a même des développements où on a interdit la location, sauf en permettant pour certains autres, comme je disais, la location à long terme.
Merci, Monique.
Je vous parle maintenant, par ailleurs, d'une initiative tout à fait positive à l'égard du logement, mais les MRC du Granit et du Haut-Saint-François mettent en place conjointement un nouveau service pour accompagner les ménages dans leur recherche de logement sur ces deux territoires. Ça s'appellera le Service d'aide à la recherche de logement, le SARL, et il aura une antenne permanente dans chaque MRC. Donc, le SARL demande la collaboration autant des municipalités que des propriétaires d'immeubles locatifs afin qu'ils informent ce nouvel organisme des logements inoccupés sur le territoire. Le SARL tiendra donc un registre qui aidera à diriger les citoyens actuels ou futurs dans leur recherche de logement. Un autre dossier qui touche la province, la sécurité routière. Eh bien, la ville de Magog ajoute sa voix à un mouvement provincial qui fait pression pour que le Québec accélère la mise en place d'actions pour améliorer la sécurité des enfants sur le chemin de l'école. Il n'y a pas des trottoirs partout ici, hein?
Oui, allez-y.
Ah, OK. Alors, le conseil municipal a adopté lundi soir une résolution demandant au gouvernement d'augmenter rapidement et significativement le budget accordé à l'aménagement de mesures sécuritaires prouvées efficaces autour des écoles du Québec et donc de revoir son processus d'accompagnement et de gestion des demandes municipales à ce sujet. La politique de mobilité durable du Québec a été adoptée, chers amis, en 2018, avec l'objectif de vision zéro accident, mais elle n'a toujours pas été déployé. Alors, il y a un groupe de citoyens impliqués depuis longtemps dans cette bataille pour la sécurité des écoliers à Magog qui a interpellé les élus par lettre la semaine dernière pour qu'ils se positionnent. Un autre dossier qui traîne encore en longueur.
Oui, et puis le fait que ça traîne, ça a des impacts. C'est dangereux pour les enfants.
Oui, tout à fait. Puis comme je disais, il n'y a pas des trottoirs partout. Hein. Magog, il y a entre autres une école Montessori qui est presque à l'angle de deux rues fort passantes. C'est assez dangereux.
Un gros merci, Monique, pour cette description, ce tour des sujets importants du côté de
l'Est. Il y en a d'autres. Je vous aurais parlé de Mégantic, mais j'avais plus le temps.
C'est ça. Ça arrive.
La semaine prochaine, Monique.
Oui, peut-être. Ça, de toute façon, ça aussi, c'est un retour lancinant et pénible à chaque semaine.
Oui, ça, c'est vrai. Alors, une bonne fin de semaine pour vous.
Merci à vous aussi.
Au revoir. Du côté de Rimouski, dans le soleil, on apprend que la victime d'Harold Lebel va dévoiler son identité. Le juge Serge Francoeur a pris en délibéré la requête de la victime d'Harold Lebel, reconnue coupable d'agression sexuelle consistant à lever l'ordonnance de non-publication visant à protéger son identité. La victime, qui a comparu au palais de justice de Rimouski par visioconférence, a dit avoir envie de transformer son expérience en quelque chose de positif. Dans sa requête déposée, la femme demande que l'ordonnance soit levée le 18 avril à 9 heures, le jour même où sera diffusé un documentaire auquel elle a participé pour témoigner du processus judiciaire auquel elle a dû se soumettre après avoir déposé sa plainte pour agression sexuelle contre l'ex-député de Rimouski. Dans ce documentaire, produit par Québécois, elle apparaîtra à visage découvert. Et son identité sera dévoilée. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'elle a demandé que soit levée l'ordonnance de non-publication de son identité. Et je me tourne ensuite du côté de l'Ontario. Il y a eu le dépôt d'un budget aussi du côté de l'Ontario cette semaine. C'était la première, une première historique en Ontario. Le budget annuel déposé jeudi prévoit des dépenses provinciales qui dépasserait la barre de 200 milliards de dollars. Malgré ce fait, peu de fonds sont dédiés à de nouveaux programmes, et en particulier pour les programmes francophones. Alors, dans le droit, on dit que si le budget 2022 du gouvernement de l'Ontario avait laissé les francophones de la province sur leur faim, celui de cette année continue de leur offrir des miettes. Tout ce qui arrive, c'est que on a juste ajusté pour les coûts de la vie pour le ministère des Affaires de la langue française. On prend un petit arrêt et au retour, une conversation dans le cadre de la chronique Au-delà des limites avec M. François Bernier, qui est chef d'entreprise, mais un chef d'entreprise bien spécial.
D'écouter au quotidien, 5e édition, avec Yvan Deslauriers et Francine Forget.
Comme si j'y croyais, j'ai pris ce train pour ailleurs et pour demain. J'ai embrassé deux, trois filles, quelques garçons, puis je leur ai dit non. Je vais là où le vent me porte, je fais toujours en quelque sorte le grand voyage. Une guitare et quelques mots, chaque soir je reprends à zéro mon grand ouvrage, comme si j'y croyais. Comme si j'y croyais, je vis des vies libres de tout chagrin. Mes journées ressemblent à des nuits, à d'autres nuits qui ne ressemblent à rien. Quelques coups et quelques caresses, je casse mes cordes, je ronge mes lestes et je m'enfuis. Grandir, c'est décevoir un peu, il faut s'appliquer si l'on veut rater sa vie. Comme si j'y croyais. Ah, 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 ah.
force d'y croire, c'en est fini de vivre dans le noir. Avec la lumière et le vent, pour se l'allier, j'ai le souffle coupé. Sans me soucier des jours qui viennent, je m'enfuis à travers la plaine, et cette fois, plus de faux départs, plus de doutes, plus aucun chat noir sur ma route, puisque j'y crois, puisque j'y croyais.
Duo Pierre, Pomme et Philomène Simon. Ça va bien, moi aussi, de mon côté de la vitre.
C'est une très bonne émission jusqu'à présent.
Comme si j'y croyais. Donc, Philomène Simon et Pomme qui chantent comme si j'y croyais.
Oui, c'est une belle chanson.
Est-ce que c'est la tempête, ça, qui s'en vient? Il y a toutes sortes de signes.
La Pentecôte qui s'en vient.
Oui, c'est la Pentecôte, mais ça, c'est à la fin mai, vous nous avez dit.
On essayait de trouver la date de la Pentecôte.
Alors, reprenons un peu le contrôle, monsieur Yvan.
Monsieur Bernier, faites quelque chose. C'est complètement n'importe quoi présentement.
Non. Ça ne sera pas n'importe quoi. Pas avec un invité comme ça. Alors, Yvan, nous recevons François Bernier. François Bernier, qui est un chef d'entreprise, qui a créé une entreprise qui s'appelle Horizon B2B, mais aussi qui est quelqu'un, malgré son handicap, et je dirais avec son handicap, qui est un grand promoteur de l'inclusivité. Bonjour François Bernier.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Ça nous fait plaisir de vous recevoir ce matin. Vous avez un parcours tellement extraordinaire, tellement inspirant. On vous suit sur LinkedIn depuis un certain temps et au cours des derniers jours, on vous a suivi intensivement et on a vu que vous avez parlé de nous. C'est bien, on apprécie.
On n'est pas habitué.
Alors, j'aimerais ça peut-être dans un premier temps, M. Bernier, si vous pouviez nous parler un peu de vous avant qu'on parle de vos réalisations, de votre handicap, du chemin que vous avez parcouru jusqu'à la création de Horizon B2B.
Oui, absolument. Mais en fait, comme vous avez mentionné, moi, j'ai la myotrophie spinale. Et c'est deux depuis la naissance. Donc, grosso modo, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que mes muscles ne se développent pas. Je suis en chaise roulante. Puis, je fonctionnais de un bras et de deux doigts. Donc, je ne peux pas utiliser un clavier ou quoi que ce soit. Donc, je fais tout avec ma souris. Puis, en fait, avant de lancer mon entreprise, j'ai fait beaucoup d'études experts. J'ai des logiciels. Ensuite, j'ai fait un baccalauréat en économie. Puis ensuite, j'ai été au HEC, où c'est là que j'ai eu la piqûre du monde des affaires. Puis j'ai fait, en fait, un DSS, qui par la suite, j'ai voulu approfondir mes connaissances dans ce domaine-là. Et c'est là que j'ai fait une maîtrise en stratégie avant de me lancer en entrepreneuriat.
Est-ce qu'il y a eu, vous avez vécu des problématiques particulières pendant ce parcours-là de vos études, je dirais particulièrement vos études universitaires?
J'étais quand même bien entouré. J'avais des amis dans mes cours qui prenaient des notes. Pour moi, j'avais des bons services à l'école. Puis, disons que, étant donné que je ne prends pas de notes, j'ai dû travailler à être très attentif dans les cours pour pouvoir me bien comprendre et bien me souvenir de quoi on parlait pour passer les examens. Ça s'est très bien passé.
Vous deviez avoir une grande faculté de concentration, hein, probablement.
Oui, mais disons que j'avais pas le choix de développer ça.
Vous n'aviez pas le choix de développer ça, mais quand même, vous l'avez fait, vous avez développé ça, comme vous dites. Alors donc, après vos 8 ans à l'université, ça c'est à quelle période, je ne vais pas vous demander votre âge, mais à quelle période vous avez été à l'université, là? Parce qu'en fait, ça a fait 8 ans à l'université, si je calcule bien.
Oui, mais en fait, probablement de 19 à 27 ans.
De 19 à 27 ans.
Oui, donc ça fait 6 ans.
Ça fait 6 ans.
Que j'ai terminé.
Ça fait 6 ans que vous... Ben là, vous nous avez révélé votre âge. Là, vous êtes conscient de ça, là.
Donc, vous êtes un tout jeune, là, vous, là.
Avec beaucoup d'expérience, oui. Quand même. Après l'université, là, vous arrivez sur le marché du travail. Avant de créer votre entreprise, vous arrivez sur le marché du travail. C'est pas si facile que ça.
Oui, mais en fait, avant la fin de ma maîtrise, moi, j'ai fait un stage, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis bon, pour une raison, finalement, j'ai pas été embauché par la suite temps plein. Donc là, j'ai commencé à chercher un emploi pour commencer après ma maîtrise. Puis j'ai eu plus des entrevues, puis je me faisais souvent dire que je terminais deuxième dans le processus. Donc je me rendais toujours très loin du processus, puis je terminais toujours deuxième. Je trouvais ça un petit peu bizarre. Je pense que dans le temps, peut-être l'inclusivité, l'inclusion était moins un sujet qu'un enjeu qu'on parlait, pour faire moins de priorité, en tout cas au Québec. Puis je sentais que peut-être c'est un désavantage pour moi dans les choix de d'embauche.
Et c'est là que vous vous avez dit, je vais prendre ça en main.
Oui, donc en fait, quand j'ai terminé ma maîtrise, j'ai décidé de prendre un mois de congé, puis après ça, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer? J'avais eu un cours à option sur le marketing web que j'avais vraiment trippé. Puis, j'étais vraiment passionné par ce domaine-là. Donc, c'est là que j'ai décidé de lancer ma première entreprise. Dans le temps, ça s'appelait Stratégie Bernier. Donc, pour aider les entreprises en stratégie web.
La Stratégie Bernier, ben ça disait ce que ça disait, mais ça, c'était moins clair que l'autre nom que vous avez choisi par la suite.
Oui, donc là, durant une année environ, donc je travaillais pour des startups pour les aider, puis j'ai commencé. En fait, j'avais aucun réseau dans le domaine des affaires dans le temps. Donc, pour rencontrer des entreprises, j'ai commencé à utiliser LinkedIn.
Oui.
Puis là, j'avais plein de rencontres avec des dirigeants d'entreprises de tous les niveaux, même des grandes entreprises. Puis là, j'étais vraiment impressionné par qu'est-ce qu'on pouvait faire avec LinkedIn. Donc, dans le temps, je travaillais avec mon ami Vincent, puis on s'est dit, mais pourquoi qu'on lance pas un service pour faire ce qu'on fait, mais pour les autres entreprises. Puis c'est là qu'on a lancé, quelques mois plus tard, Horizon B2B.
Et vous êtes rendu à 21 500 abonnés. C'est quelque chose. Parlez-nous un petit peu de votre entreprise, parce que c'est une entreprise. Là. Vous n'êtes pas un travailleur autonome. Vous avez des employés, vous offrez des services variés, mais vraiment déterminés dans une sphère d'activité précise.
Oui, donc nous, on est une équipe de 8 actuellement, puis grosso modo, on a 3 services. Le premier, c'est qu'on aide les entreprises B2B dans leur développement des affaires, développer leur clientèle en utilisant LinkedIn et d'autres canaux virtuels. Ensuite, on aide les entreprises à faire du recrutement. Puis, depuis environ un an, on aide maintenant les entreprises à être inclusives. Donc, côté inclusion, comment embaucher des personnes avec des handicaps, comment les intégrer. Donc, on aide à tout ce processus-là. Surtout pour les PME qui connaissent vraiment très peu les différents programmes.
Quand vous parlez de programmes, gouvernementaux qui peuvent les aider?
Bien, soit des programmes de subvention, ou soit simplement les bonnes pratiques d'intégration, soit comment trouver des candidats. Moi, j'ai réalisé l'année dernière, justement, en développant notre service de recrutement, que j'ai rencontré énormément de départements RH, puis j'ai été un peu sous le choc de réaliser à quel point les gens ne savaient juste pas comment trouver des candidats avec des handicaps, comment les intégrer. Donc, c'est pour ça que c'était un peu toujours mis sur la glace, puis que c'était pas les priorités. Puis là, je me suis dit, pourquoi qu'on les aide pas à le faire? Donc, c'est là qu'on a développé ce troisième service-là.
Dites-moi, le temps file malheureusement, mais j'aimerais ça, en terminant, que vous nous parliez de ce que vous faites pour... soutenir comme une espèce de leitmotiv que vous avez, l'inclusivité n'est pas un boulet. Alors, quel genre d'activité vous faites avec les entreprises et les personnes responsables de ressources humaines, comme vous l'avez mentionné?
Oui, bien, en fait, j'ai commencé à donner des conférences l'année dernière où que je raconte mon histoire et j'explique, en fait, qu'est-ce qu'un handicap peut apporter comme atout à une entreprise, que ça peut apporter beaucoup de choses, beaucoup de bénéfices, que c'est pas, comme vous avez mentionné, c'est vraiment pas un boulet, que c'est un atout d'être une entreprise inclusive. Donc, j'offre des conférences en entreprise, puis on offre aussi de la consultation, donc pour mettre en place des programmes de en fait, comment trouver des candidats de recrutement et aussi, comme je disais, vraiment comment les intégrer proprement pour que ça se passe bien pour tout le monde. Donc, c'est vraiment de leur apprendre les meilleures pratiques qu'on trouve un peu partout dans le monde, dans des endroits qui sont plus avancés qu'au Québec.
Merci beaucoup, François Bernier. Malheureusement, on doit s'arrêter ici de nous avoir consacré ces quelques minutes. Ça a été vraiment un beau moment. Au revoir.
Merci. Merci beaucoup. Au revoir.
Alors, notre historien est de retour. Bonjour, Marcel Dugard.
Bonjour.
On s'est ennuyé la semaine dernière.
Moi aussi.
Ah, c'est partagé que c'est gentil. Je prendrai pas trop de votre temps. En fait, vous allez plonger et on va vous accompagner dans la liste progressive des 10 villes les plus peuplées du Québec. Alors, on s'imagine que depuis le début 20e siècle jusqu'à nos jours, il y a peut-être eu des changements plus importants qu'on pense.
Ben, vous direz peut-être que je suis facile à divertir, mais moi, je trouve ça fascinant, ce genre de liste-là. Je suis tombé sur les classements des 10 villes les plus peuplées du Québec pour chaque année où on a fait un recensement depuis 1901. Et on peut suivre vraiment les villes qui montent, qui descendent, qui entrent, qui sortent du top 10 au gré des fusions, des amalgamations. Et ça nous permet de suivre les grandes tendances démographiques, urbanisation, industrialisation, les différentes phases de développement des banlieues. On va donc aller jeter un coup d'œil, voir de plus près qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a évolué ce Québec-là du dernier siècle et quart. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que Montréal, c'est la ville la plus peuplée de la province pendant toute la période et elle l'est par une bonne marge. C'est pas particulièrement serré avec la deuxième place généralement occupée par Québec. Montréal et Québec ont été pratiquement depuis les tout débuts de la colonisation par les Européens, les deux grands pôles de population. Au départ, c'est Québec en tant que siège du gouvernement qui était la plus peuplée des deux, mais Montréal, porte d'entrée vers l'intérieur du continent qui va vite devenir le centre financier du Canada, va dépasser Québec dans les années 1820 et n'a plus regardé en arrière. Lorsque le 20e siècle commence, Montréal et Québec sont respectivement la métropole et la troisième ville la plus peuplée du Canada, avec Toronto entre les deux, mais je veux vraiment me concentrer sur la démographie québécoise pour aujourd'hui. Montréal, en 1901, compte 268 000 habitants, alors que Québec en dénombre 69 000, là, j'arrondis au millier près. Et quand on regarde le classement d'aujourd'hui, suite au recensement de 2021, on voit que les villes de la banlieue de Montréal occupent une grande place. Laval est troisième, Longueuil cinquième, Terrebonne dixième. Mais ce sont des banlieues qui se trouvent hors de l'île, dans les couronnes de Montréal. Au début du 20e siècle, le classement était dominé, encore une fois, par des banlieues de Montréal, mais qui étaient contiguës à la métropole et qui sont aujourd'hui des quartiers ou des arrondissements de la ville. Sainte-Cunégonde, c'est dans la petite Bourgogne actuelle, entre l'autoroute Ville-Marie et le canal La Chine, juste à l'est d'Atwater, c'était la 8e ville la plus peuplée de la province au tournant du 20e siècle. Ville-Saint-Louis, qui est un secteur de l'actuel plateau Mont-Royal, occupait le 7e rang. Et la 3e ville la plus peuplée du Québec, c'était Saint-Henri. Le Saint-Henri pauvre, bruyant, pollué, que nous a raconté Gabriel Roy, c'était une ville autonome à ce moment-là, et elle avait une population supérieure à toutes les villes de la province, à part Montréal et Québec. Le classement de 1911 est très différent de celui de 1901 pour une raison très simple. Les trois villes de banlieue que je viens de vous nommer ont été annexées à Montréal pendant la décennie. D'ailleurs, la population de Montréal va presque doubler pendant la première décennie du 20e siècle. C'était dû à des mouvements de population, les gens des campagnes qui viennent travailler en ville, à l'immigration, mais aussi aux multiples fusions municipales. Entre 1883 et 1918, Montréal a avalé 23 de ses voisines. Donc, en 1911, aux côtés de Hull, Sherbrooke et Trois-Rivières, on retrouve quatre banlieues de Montréal qui n'étaient pas au palmarès 10 ans plus tôt, La Chine et Verdun qui ont survécu en tant que ville jusqu'aux fusions municipales de 2002, Westmount, qui existe encore, était 6e à ce moment-là, et l'industrieuse et dépensière ville de Maisonneuve, aujourd'hui un secteur de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, a connu un essor très important. Elle n'était pas dans le top 10 en 1901, elle est maintenant 3e. Petit problème par contre, la ville va se mettre en faillite au cours de la décennie et disparaît en 1918.
Pourquoi elle est dépensière et qu'elle se met en faillite?
Mais c'est une ville qui voyait très grand et s'est construit toutes sortes d'édifices de prestige, notamment le marché Maisonneuve, le Bain Morgan, plusieurs de ces édifices-là qui existent toujours aujourd'hui. Mais on avait des idées de grandeur, mais c'était pas réaliste dans le concret. Et à un moment donné, on a dû s'avouer vaincu, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup trop dépensé, qu'on était trop endetté, que ce n'était plus tenable. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de villes qui ont été rattachées à Montréal, tout simplement. On avait grossi trop vite, on avait vu trop grand. Et on s'est retrouvé dans une situation où on ne pouvait faire autre chose que d'être rattaché et pouvoir partager notre dette avec l'ensemble des contribuables de la ville. Donc, Maisonneuve ayant disparu, on peut se demander qui va prendre la 3e place en 1921. Il y a un suspense. Eh bien, c'est Verdun, dont la population a plus que doublé au cours de la décennie 1910, qui s'installe en 3e place. Place qu'elle va occuper jusqu'aux années 1960, alors que Hull et Sherbrooke demeurent 4e et 5e, respectivement. Les années 1920 vont être favorables à la Mauricie, le développement industriel, propulsé notamment par l'important potentiel hydroélectrique de la région, amène une augmentation de la population dans les deux grands centres de la région, Shawinigan et Trois-Rivières. Cette dernière passe devant Hull et Sherbrooke, passe en 4e place en 1931, et ces trois villes-là vont former un noyau dur de villes de régions qui vont se partager les positions 4 à 6 jusqu'aux années 1960. L'ordre va varier un peu, mais on se maintient. On va avancer un peu dans le temps. Il n'y a pas de grands mouvements là, dans les années 1940, au début des années 1950. Montréal atteint le million de population pour la première fois au recensement de 1951. En 1956, là, on commence à recenser aux 5 ans et non aux 10 ans. Les banlieues de Montréal sont encore bien représentées. Verdun, Saint-Laurent, La Chine, Outremont sont 3e, 7e, 8e et 10e. Mais le Québec du début de l'ère de l'automobile voit sa première banlieue hors de l'île de Montréal dans le top 10. Ça se passe sur la rive sud avec ses 33 000 habitants. Ville-Jacques-Cartier est la 9e ville la plus peuplée de la province. On la retrouve à nouveau au classement de 1961. Elle va ensuite disparaître pour mieux réapparaître en 1971 suite à la fusion avec sa voisine Longueuil. Autre cas intéressant, celui de Ville-Saint-Michel, qui fait partie de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, parc extension de Montréal aujourd'hui. Ça a longtemps été un village agricole de campagne, mais Saint-Michel, dont l'épine dorsale était le boulevard du même nom, va connaître un développement effréné suite à la Deuxième Guerre mondiale. C'est là qu'on retrouvait la carrière Miron et ses fameuses cheminées blanches et rouges qu'on avait dynamitées en direct à la télévision dans les années 1980. Ça a été une carrière, puis un site d'enfouissement des déchets, l'endroit en meilleure mine aujourd'hui. Ville-Saint-Michel apparaît en 5e place au classement des villes les plus peuplées du Québec en 1961. C'était très gros, ça continue de croître. On ajoute 15 000 nouveaux habitants entre 61 et 66, mais On avait grossi trop vite, encore une fois, et de manière complètement désordonnée. La ville est absorbée par Montréal en 1968. Et parlant de fusion, le classement sera chamboulé par l'adoption à l'été 1965 d'une loi du gouvernement du Québec qui regroupait les 14 municipalités que comptait l'île Jésus en une seule et même ville, Laval. Et Laval naît en tant que deuxième plus grand centre urbain du Québec. En 1966, elle compte 30 000 habitants de plus que Québec, qui glisse pour la première fois au troisième rang. On avance dans les années 60-70, ben là, c'est vraiment le règne des banlieues. En 1971, on voit pour la première fois une banlieue de Québec dans le classement, Sainte-Foy, qui est 9e, et c'en est fini du bloc Trois-Rivières-Sherbrooke-Hull dont je vous parlais plus tôt. Trois-Rivières et Hull ne sont plus dans le classement. En fait, Hull, dans le top 10 depuis le tout début du siècle, n'est même plus la ville la plus peuplée de l'Outaouais. Gatineau a été fusionné avec plusieurs de ses voisines en 1974, et Gatineau apparaît pour la première fois dans le classement suite à ça. Il y aura des changements assez mineurs par la suite jusqu'aux grandes fusions municipales de 2002. Évidemment, ça va tout changer. Québec, qui a fusionné notamment Sainte-Foy et Beauport, va reprendre la deuxième place et passer devant Laval. Longueuil ajoute Saint-Hubert, qui était la 9e plus grosse ville du Québec à ce moment-là. Et Montréal avale les 6e, 7e et 10e villes en importance de la province, en l'occurrence Montréal-Nord, Saint-Laurent et La Salle. Ça nous a donné un portrait très, très différent suite au recensement de 2006. Et on a vu apparaître des villes comme Saguenay, Lévis, Terrebonne, qui n'avaient jamais figuré au top avant, Saguenay sous aucune de ces différentes dénominations. Et les choses, Francine, sont demeurées à peu près inchangées depuis.
Ah oui, malgré tout ce qu'on dit, on dit toujours que Montréal se dépeuple, que certaines banlieues prennent de l'expansion. Je pense entre autres des banlieues de la Rive-Nord et tout ça, ça n'a pas joué de façon aussi importante, c'est ce que je comprends.
Ben c'est pas faux, mais en termes de classement là, de 1 à 10, il y a eu presque pas de mouvement là, depuis les fusions. Ça fait déjà 20 ans. C'est dur à croire quand on se rappelle à quel point ça avait été un débat interminable à ce moment-là, cette grande révolution municipale, je pense qu'on peut le dire comme ça.
Oui, bon, on en parlait encore tout récemment sur la Rive-Sud, rappelons-nous. Longueuil et d'autres villes qui se sont jointes à elle, je ne sais pas si on peut dire ça.
Accord défendant.
Ben, merci beaucoup, Marcel, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Pour terminer cette demi-heure, une par actualité, c'est un article que vous m'avez fourni, Francine, qu'on a trouvé dans la presse plus de cette semaine, le 18 mars. Les déficiences intellectuelles, nos enfants sont sans avenir, et si c'était les vôtres? C'est trois mères, Anouk Lanouette-Turgeon, Isabelle Perrin et Annick Larose, qui ont publié une lettre dans la section débat. Ça dit, nous sommes trois mères aimantes et battantes pour nos enfants qui ont une déficience intellectuelle. Trois mères terrifiées devant l'avenir absolument et absolument en colère face à l'invisibilité chronique de nos enfants et forcées d'espérer une révolution. Notre constat est brutal. Nos jeunes subissent des pratiques rétrogrades qui correspondent à la négligence institutionnalisée. Je comprends maintenant pourquoi vous m'avait demandé de le lire.
Oui, c'est ça. Ben, c'est parce qu'il y avait un exercice de diction et je jugeais que vous étiez rendu là.
Oui, je l'ai presque raté, par contre. On les prive de leur potentiel, on ignore leurs rêves, on les oublie devant l'écran éteint de leur avenir. C'est une très belle phrase. Accepteriez-vous ce traitement pour vos enfants? Ça commence par Lou, qui a 12 ans. Dans nos écoles, les enfants ayant une déficience intellectuelle sont regroupés par niveau. Déficience légère, modérée ou sévère, profonde. On ne parle plus ouvertement de quotient intellectuel, mais les évaluations qui permettent de décider dans quelle classe ira un enfant incluent néanmoins des tests d'intelligence. Accepteriez-vous que votre enfant soit classé selon son quotient intellectuel? Pourquoi cette pratique est-elle normale pour les enfants qui vivent avec une déficience intellectuelle? On nous dit que c'est pour le bien de nos petits, pour l'attribution de services éducatifs adaptés à leurs besoins, sauf que. Et Lou, c'est une espèce d'intello. Il a une facilité remarquable avec les mots. Or, en classe de déficience modérée, on a cessé de lui enseigner à lire. Dommage. Ensuite, du côté de Thomas, 19 ans, accepteriez-vous que du jour au lendemain, votre enfant ne puisse plus fréquenter son milieu d'apprentissage à temps plein parce que les listes d'attente sont trop longues? Imaginez que par souci d'équité, du haut de sa pyramide, un gestionnaire ait décidé de saupoudrer des services afin que davantage d'usagers puissent en bénéficier. Et finalement, Marie, 28 ans, accepteriez-vous qu'à l'âge de 21 ans, au terme de son parcours scolaire, votre jeune, plein d'énergie, soit plongé dans un vide abyssal, sans projet et sans ressources? C'est le cri d'alerte que nous proposaient ces trois mères d'enfants qui vivent avec un handicap intellectuel. On fait une petite pause. Au retour, on parle de technologie et on va apprendre que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire musco. Gardez ça en tête.
Écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Et Francine, pour commencer cette dernière demi-heure, on va parler techno. Et votre premier sujet m'intrigue, alerte à la fraude bancaire des arnaqueurs de plus en plus rusés. Et moi, je pensais que je recevais des messages de tout ordre que je me dépêchais d'éliminer. Mais là, je commence à avoir des petits frissons, là, je sais pas. Dites-moi.
Je pensais que vous étiez pour être déçu, parce que je vous parle pas de Bard, B-A-R-D, qui est l'intelligence artificielle que Google a lancée en groupe restreint aux États-Unis seulement, ou encore de ChatGPT-4 qui est arrivé et qui a même fait l'objet de critiques... très bonne critique de Maxime Johnson dans l'actualité, qui fait encore des fautes, pas Maxime, mais ChatGPT, mais qui semble-t-il s'améliorerait. Ou encore que vous ne parliez pas de ce qui a circulé par le biais de l'infolettre de Bruno Guglielminetti, de ChatGPT et de certains emplois qui sont menacés.
Si je comprends bien, là, vous ne mettez pas ChatGPT dans notre feuille de route, mais vous en parlez quand même. C'est ça le truc.
C'est impossible, Yvan. C'est impossible. Je vais même vous dire cette semaine, je me disais, est-ce que je suis vraiment hors d'ordre? Et après ça, je suis allée sur le site de françoischaron.com et il y avait ces sujets-là. Puis je me disais, ben oui, on va en parler. Le premier, je vous dirais que j'étais contente de voir ce texte parce que j'avais l'intention de vous en parler parce que j'étais un de ceux qui a été harponné. Mais j'ai pas été harponnée parce que justement. Une des personnes. De celles, je parlais de façon générale. J'aurais dû dire de celles si je parle selon moi. Voilà. Alors, on est habitué à toutes sortes de harponnages. Et vous avez raison. Vous recevez un petit texto, vous le. Vous le rayez.
Retour d'impôt, des choses comme ça.
Oui. Mais là, c'est pas mal subtil. Premièrement, vous recevez un appel téléphonique. L'appel téléphonique, moi, je ne l'ai pas pris en ligne parce que j'étais occupée. Mais normalement, je pense que je l'aurais pris parce que c'est un numéro qui est associé à ma banque.
Ah oui?
Et il y a eu un message. Alors ça, c'est vraiment, faut être culotté. On a laissé un message pour me dire qu'on m'enverrait un texto. Alors voilà, sentiment de sécurité, la banque m'avertit. Donc je vais recevoir mon texto, puis je vais savoir que c'est vrai, pour me dire que ma carte bancaire a été arnaquée et qu'il y a des dépenses qui sont passées sur ma carte et que là, il faudrait que, évidemment, je change mon mot de passe. Bon, vous savez très bien que ça n'a pas d'allure.
Puis là, ils fournissent le lien pour aller le faire.
Ah oui, bien ça, vous recevez le texto, effectivement. Mm-hmm. Alors, c'est un phénomène de spoofing qu'on appelle. Donc, on part d'une source inconnue, puis on va vers une source connue et on arrive à l'utilisateur. On commande cela par le biais d'un numéro qu'on peut très, très bien associer à notre institution. Et ensuite, j'ai reçu le fameux texto qui venait de ma banque. Mais évidemment, il ne venait pas de ma banque. Voilà. Et avec le numéro de carte de débit, les derniers numéros.
Oui, oui, oui.
Alors donc, comme quand on l'envoie généralement, quand vous allez recevoir quelque chose, ça va toujours être une confirmation avec les quatre derniers numéros. Oui. Alors, c'était exactement la même chose. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que si vous payez avec votre portefeuille mobile, bien, vous allez être obligé de faire cette transaction-là tout de suite, là, c'est-à-dire de changer votre accès mot de passe, parce que sinon, vous ne pourrez plus utiliser votre portefeuille mobile, vous qui l'utilisez régulièrement. Mm-hmm. Tout ça est vrai. Mm-hmm. Tout ça est vrai. Alors, il faut vraiment être éveillé. Je vous avoue que je me suis posé beaucoup de questions à chaque étape parce que je trouvais ça un peu particulier. Moi, dès le départ, j'étais un peu alertée parce que je me disais, c'est pas de même que ça se fait. Alors, je suis allée voir, c'est parce qu'on me l'aurait bloqué, ma carte. Hein?
Sur le
site. Je serais arrivée pour payer avec mon téléphone, puis on aurait bloqué ma carte.
Je comprends.
Je suis allée voir sur mon site où j'ai mes comptes, etc. Mm-hmm. Et là, j'ai vu qu'il n'y avait pas de... Et
tout en
plus,
normal,
c'était facile à voir parce que comme c'est la carte bancaire, c'est directement dans le compte. Donc, c'est pas un achat de crédit qu'on va inscrire plus tard.
La morale de cette histoire, parce que c'est vrai qu'on en reçoit des messages de ce type-là qui ont l'air vrais ou qui nous font frissonner en disant « Ah, votre carte de crédit a été clonée, etc. » Passez donc par le site de votre institution financière si vous voulez faire des changements et non pas par les liens qui vous sont fournis.
Oui, mais si je vous avais fait écouter le message qu'on a eu le culot de laisser dans ma boîte vocale, vous auriez pu croire que c'était effectivement l'institution bancaire qui vous appelait pour vous aviser.
Je comprends.
Alors, on se raffine. L'utilisation du téléphone, on avait délaissé ça de plus en plus, sauf pour essayer de soustraire certaines sommes, souvent des personnes âgées qui étaient la cible, d'un petit enfant qui était quelque part en voyage, qui était bien mal pris. Voilà.
Et là, on parle de téléphone intelligent usagé.
Oui, toujours sur le site de françoischaron.com.
À moins que vous parliez de ChatGPT par en dessous, là, je pense.
Non, il n'y a rien de caché. Non, je faisais juste vous aviser que la semaine prochaine, on ne pourra pas passer parce que vous voyez, il y a trois sujets importants et je ne peux pas en parler. Alors, la semaine prochaine, on se lâche lousse, comme on dit. Bon, évidemment, parfois, c'est cher. Hein, les téléphones, c'est rendu très, très cher. En plus de ça, c'est que il n'y a pas d'obsolescence programmée, là, mais en tout cas, moi, je pense qu'il y en a encore.
Ouais.
C'est ça. Et si on va sur Kijiji Marketplace, c'est quoi la garantie de sécurité qu'on a que ce n'est pas un téléphone volé ou un bon? Il y a une entreprise, et là, bon, je vais en faire la promotion. Là, moi, je n'ai jamais fait affaire avec elle, mais si j'en crois François Charon, c'est bien. Ça s'appelle Top Notch. T-O-P-N-O-T-C-H. Alors, comme quand on dit que c'est top-notch, c'est si on veut acheter un téléphone usagé, on va sur shop, S-H-O-P, top-notch, T-O-P-N-O-T-C-H.ca. Et c'est une entreprise québécoise. Tous les appareils sont certifiés, déverrouillés. Ils sont reconditionnés et ça va bien. Et vous avez même un classement. Alors, quand vous l'achetez, vous avez un classement, vous avez comme neuf. Alors, ça, c'est impeccable, ça frôle la perfection. On a un très bon. Lui, il dit, c'est pas gênant pantoute. Ça veut dire que, dans le fond, ça va bien, tout va bien. Vous avez good, ça a du vécu. Ça se peut que quand vous arriviez avec des intelligences artificielles et tout ça, ça soit un petit peu difficile. Mais vous voyez, c'est classé, alors c'est intéressant. Et c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher.
Puis j'imagine que c'est moins cher selon la catégorie.
Oui, c'est sûr que l'écart, mais quand même, vous retrouverez pas sur Top Notch des téléphones à 2000 $ là. parce qu'on arrive proche de ça, là, hein, les derniers Samsung, les derniers Apple, etc. Et en plus, il y a des forfaits qui peuvent vous être offerts.
Wow!
Voilà.
Je note.
Top notch!
Mais ce soir, je cède à l'usure, à cuisiner, lessiver, les sirènes sont loin, déjà mes lendemains s'y mêlent. Longtemps, longtemps, c'est
Un autre duo, c'était Anatole et Lou Adrienne Cassidy qui chantaient « Mais ce soir ».
Wow! Merci beaucoup. Et je me tourne vers Carole Froment, que vous connaissez maintenant, coordonnatrice au développement philanthropique et aux communications du Centre d'intégration à la vie active, le CIVA. Bonjour, Carole.
Bonjour, Yvan.
Ça va?
Ça va bien, vous?
Oui, ça va bien. Alors, demain, il se passe quelque chose d'important pour vous?
Oui, complètement. Demain, le samedi 25 mars, c'est l'événement Musco. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler.
Non, il a fallu que j'aille chercher dans les internets. Et Francine voudrait bien savoir qu'est-ce que Musco veut dire.
C'est l'acronyme pour... En fait, c'est l'acronyme d'une initiative de l'hôpital Sainte-Justine soutenue par la Fondation Saputo. C'est l'acronyme de musculo-squelettique. Puis, en fait, c'est un programme qui s'appelle Amis des enfants aux prises avec des troubles musculo-squelettiques et de leur famille, qui vise à aiguiller donc les proches des enfants vivant avec un handicap dans les services qui leur sont proposés. Et donc, demain, ils organisent un événement sur la thématique le sport adapté, plaisir et santé. Et évidemment, c'est une thématique qui nous rejoint beaucoup avec les services que nous offrons et les projets qu'on développe. Donc, on y participera notamment par une conférence. Ma collègue Elisabelle Gendron, qui est coordonnatrice des programmes ici au CIVA, mais qui est également kinésiologue, tiendra une conférence avec Julien Lécuyer, qui est athlète et entraîneur de Portier Soccer chez nous. Ce sera 10h20, puis la thématique, c'est vie active, quelles sont les barrières les plus fréquentes. Mais sinon, toute la journée, vous aurez des blocs différents de conférences et de témoignages dans l'objectif d'aiguiller les familles et les parents vers des services sportifs adaptés à leurs enfants.
Est-ce que ce sont les parents qui ont des enfants à l'hôpital Sainte-Justine présentement qui vont aller à cet événement-là ou il y a des invitations qui ont été faites partout?
Non, c'est vraiment ouvert au grand public, même aux professionnels de la santé. Je sais que dans leur promotion, ils ont quand même voulu toucher un large panel de personnes et d'intervenants. C'est sûr qu'ils ciblent beaucoup sur l'impact à la communauté et aux familles, mais c'est vraiment pour toute personne qui a un enfant avec un handicap et qui serait intéressée à le mener vers une démarche de vie active, notamment par la pratique sportive. Puis c'est aussi un événement qui est gratuit. Donc les inscriptions sont obligatoires. J'ai vérifié ce matin avant de vous en parler. Mm-hmm. Elles sont toujours ouvertes. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire. Puis j'ai vérifié aussi, les inscriptions se font via le site de l'hôpital de Montréal pour enfants. Vous avez l'onglet actualité et vous pourrez vous inscrire gratuitement à cet endroit-là.
Je comprends. Je vais juste ajouter une petite chose. C'est pour Francine qui veut absolument savoir Musco. Ces troubles musculo-squelettiques et qui nécessitent des soins, le SO, complexes, CO, donc musco. Voilà. Okay. Et le deuxième sujet, c'est la mise à jour de votre catalogue d'exposition. Et la semaine dernière, d'ailleurs, un gros merci, c'est vous qui nous l'avez présenté. On a parlé avec Sylvie Sauvé,
oui.
qui nous disait qu'elle avait commencé à peindre. Alors,
Oui, Sylvie, ça fait, je ne saurais pas exactement depuis combien de temps, mais ça fait de nombreuses années qu'elle peint avec nous. Elle est notamment artiste dans le cours d'art avancé du CIVA, qui s'appelle le CIVAR. Mais oui, c'est un sujet que je trouvais sympathique à aborder, parce que c'est vrai qu'on présente souvent le CIVA comme un organisme qui offre des sports adaptés, puis on nous connaît beaucoup en fait sous cet angle. Mais il faut savoir qu'on a tout un volet culturel et artistique qui est offert aux personnes en situation de handicap physique. Donc on a différents cours d'art visuel, dont le CIVAR, mais on a aussi un autre cours plus, on va dire, plus débutant, à raison de 3 journées par semaine, qu'on offre en collaboration avec le Centre de services scolaires de Montréal. On a aussi du cirque social qu'on offre aux plus jeunes. On fait beaucoup de sorties culturelles. Puis l'objectif, c'est vraiment d'aider les participants à acquérir des techniques, à expérimenter divers médiums. Et notamment, on les mène vers une démarche d'exposition, puis voire de professionnalisation s'ils le souhaitent. Et notre catalogue d'exposition prenait un peu la poussière dans les cartons. Donc là, pour ce début d'année 2023, on l'a remis à jour, on l'a redynamisé. Puis on a vraiment le souhait de le diffuser pour promouvoir et donner de la visibilité au potentiel de réalisation de nos artistes. Là, comme je vous en avais fait part, on va participer à une première exposition à compter de la semaine prochaine, le mercredi 29 mars, à l'écomusée du Fiers-Monde. Donc dans ce cadre-là, ce sera une sélection d'œuvres qui ont été produites au cours de l'année par nos artistes qui sont dans le cours en collaboration avec la commission scolaire. Et il y aura notamment la série, si vous regardez notre catalogue d'expo, il y a la série À la manière d'eux, qui est quand même vraiment réussie et très belle, qui sera exposée à l'écomusée. Et puis également, là, dans toute cette démarche de promotion, on a une exposition qui démarrera à partir du 13 avril dans une librairie ici dans le sud-ouest. Donc, c'était l'objectif de commencer à promouvoir, puis de donner de la visibilité pour que nos artistes soient aussi fiers d'eux, puis qu'ils soient motivés à produire plus. Parce que c'est vrai que, notamment, Sylvie nous disait, on produit, on a des œuvres partout dans notre chambre, dans notre salon, mais on aimerait bien les vendre, puis on aimerait bien que les gens les voient. Donc, on a entendu le message, puis on en parle.
J'imagine très bien Sylvie en train de vous dire quelque chose comme ça. Oui, je suis en train de feuilleter rapidement le catalogue d'exposition qu'on voit sur votre site. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant. Ça accroche l'œil vraiment facilement. Alors oui, c'est une très, très belle initiative. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
Alors, au plaisir de se reparler dans un mois. Merci beaucoup, Carole,
c'est
pour
parfait.
Toutes ces informations.
Merci, Yvon. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
Francine, que surveillerez-vous, mon Dieu, oui, ça se place bien, c'est bon. Que surveillerez-vous dans la prochaine semaine?
Dans la prochaine semaine, je dirais plutôt le week-end, mais c'est vrai que des fois, on déborde.
Des fois, hein?
Oui. La première chose dont j'aimerais vous parler, c'est la présente exposition au 1700 La Poste dans Griffintown. Oui, je vous ai apporté une invitation. C'est le 1700 Notre-Dame Ouest. C'est l'exposition de Jannick Deslauriers.
Oui, j'ai pas de lien familial à ce que je cherche avec cette personne, mais peut-être, on ne sait pas.
On ne sait pas, vous rendrez sur place et puis vous verrez. Ça s'appelle « Être imaginaire ». Alors, Jannick Deslauriers, c'est une sculpteure et elle fait des œuvres époustouflantes.
Qu'est-ce que vous voulez dire par époustouflante?
C'est très particulier. C'est, je dirais, immense, mais en même temps, c'est aérien, donc ça fait que ça pourrait être lourd, mais ça ne l'est pas. Et là, je vais m'expliquer. Ces œuvres, sculptures, sont faites avec des tissus.
Oui, c'est ça
que
je vois.
Et des tissus aériens, justement. Donc, transparents, très, très, très léger.
Mais est-ce que ce sont de grandes pièces?
Bon, voilà. Alors, si vous arrivez au sous-sol du 1700 La Poste, vous êtes face à un tank. Et tout un tank.
Comme un tank, comme pour faire la guerre?
Exactement. Exactement.
Puis c'est en tissu?
En organza.
Ça, je comprends.
Oui, en organza. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté et toutes ses œuvres sont comme ça. C'est vraiment à voir. Parce que ce tissu-là, ça a peut-être nous laissé croire une certaine légèreté, mais en même temps, ça fait ressortir toute la vulnérabilité de ce qui est exposé. Ça nous amène dans des zones où on se rend compte de notre fragilité.
Wow.
L'œuvre principale, qui est au rez-de-chaussée, a été réalisée in situ. Et ça habite complètement l'espace. C'est quand même un espace assez grand. Et ça se déploie même sur les murs.
Oh mon Dieu!
Oui, ça se déploie sur les murs. Alors tout ça, cette exposition, ça évoque, oui, la détérioration, la démolition, mais aussi la reconstruction. On est dans la réparation. Et ça fait du bien, parce que c'est effectivement, on peut s'attarder à une thématique qui pourrait avoir l'air sombre, mais au bout du compte, elle ne l'est pas entièrement. Et en plus, c'est vraiment, mais vraiment beau. Moi, je vous avoue, là, ça m'a renversé, cette exposition-là.
Oui. Je note et je vous remercie d'ailleurs de m'avoir apporté le petit livret d'invitation.
Et c'est une jeune artiste en plus. On n'a pas fini d'entendre parler d'elle, j'en suis pas mal certaine.
Bien, d'après ce que vous me dites, ça m'a l'air d'un travail très original.
Très original. C'est la couture, hein? Sa grand-mère cousait avec elle quand elle était jeune.
Oh, à ce point-là,
et voilà où ça nous mène. J'attirerai votre attention aussi sur d'autres événements. Deuxièmement, je vous parlerai de la cabane Panache. Tantôt, on parlait de Verdun. Avec nos amis, avec notre ami Marcel Dugas.
Oui.
Et c'est à Verdun, c'est sur Wellington à Verdun, la cabane Panache. Alors, comme ça se dit, c'est une cabane à sucre. C'est la 11e édition. C'est un gros, gros party de cabane à sucre. C'est gratuit pour se rendre, mais évidemment, il faut payer pour les... Il n'y a pas d'entrée, mais il va falloir payer pour les petites bouchées qu'on mange. Ça commence le 23 mars, et donc ça a commencé hier, et c'est jusqu'à 26 mars. Et il y a un site web sur la promenade, en fait, de Wellington. Si on va sur la rue Wellington, il y a on parle de cet événement-là. Pour finir, je vous dirais, avant de finir, je vous parlerai de l'exposition dont je vous ai parlé la semaine dernière. Festival qui est de l'art contemporain, mais festival souterrain.
Qui se déploie
dans 5 édifices. Bon, une mise au point peut-être, parce que moi j'ai eu une petite déception, mais on peut la contourner, cette déception-là. C'est que l'horaire l'horaire des édifices, d'ouverture des édifices n'étant pas le même, il se peut que si on y va un peu plus tard en fin de journée, qu'on ne puisse accéder à tous les édifices.
Ah, donc, parce qu'il y a des édifices de fermés, c'est ça?
Oui, il y en a qui ferment à 17h et 18h, même le week-end. Alors, il faut savoir si on va dans ce coin-là. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de vous concentrer sur la place Ville-Marie et aussi sur l'édifice Jacques-Parizeau, la caisse de dépôt.
Qui est juste à côté.
C'est justement, il y a peut-être des petits bouts qu'il faut faire dehors. Moi, j'ai fait des petits bouts dehors, parce que je trouvais que c'était plus facile puis c'était mieux comme ça.
Oui.
Bon, mais on peut le faire par l'intérieur. Mais c'est surtout l'horaire. Alors, je vous invite à aller sur le site Festival Arts Souterrains pour être sûr que votre itinéraire, vous ne vous cognerez pas le nez sur la porte parce que c'est fermé. Voilà.
Merci beaucoup. De mon côté, j'ai deux suggestions qui se passent en fin de semaine. La première, est-ce que vous aimez les orchidées?
Ah oui, j'en ai. J'aime ça.
Mon Dieu!
Oui.
Donc, dans votre vie, il y a ChatGPT et les orchidées?
Oui, il y a les orchidées. D'accord. Oui, effectivement.
Donc, il y a une exposition internationale, une vente d'orchidées, un jugement par l'American Orchid Society et un jugement par les orchidophiles de Montréal. Ça se passe au Cégep Antique. Demain, de midi à 18h, dimanche, de 9h à 17h, il y a un prix à l'entrée. On peut acheter des orchidées et partir avec.
C'est bien.
En plus de, évidemment, les regarder et les apprécier. Alors, ça dit sur le site, n'oubliez pas d'apporter vos sacs réutilisables pour transporter vos achats.
Qui participe à cet événement?
C'est la société, attendez.
Mais est-ce que j'aurais pu apporter mes orchidées, par exemple?
Non.
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 Voilà, OK.
Je ne penserais pas.
Ben, c'est pas grave, de toute façon, il est trop tard. C'est juste pour l'année prochaine.
Ça n'a pas l'air de ça. L'autre suggestion que je vous fais, c'est à la télévision. Puis vous pouvez la voir sur tout.tv. Je pense que c'est sur Radio-Canada, ICI Télé. Oui, c'est ça. Ça s'appelle « Vue sur un périple ». C'est découvrir l'univers de John et Jeannie. Peut-être qu'on va... On va peut-être essayer de les inviter à notre chronique Au-delà des limites. Peut-être. Deux sportifs passionnés et non-voyants, du cyclisme en passant par la natation, le ski ou la course à pied, la pratique de ces nombreuses disciplines, ainsi que leur participation à des compétitions, leur donne un grand sentiment de liberté. Le documentaire « Vue sur un périple » produit et réalisé par Anne-Marie Rocher sera diffusé sur ICI Télé dans le cadre de Doc Humanité demain, samedi 25 mars, à 22h30 et sur tout.tv. Moi, c'est plutôt vers là que je vais.
Que vous allez vous tourner.
Allez.
Et nous, on se tourne vers la fin. Alors, merci, chers auditeurs, d'avoir été encore une fois avec nous. Merci, Yvan.
Malgré les petits ratés.
On a zozoté un peu au début. Merci à notre metteur en ondes, Mathieu.
Mathieu Tessier.
Tessier, voilà, c'est bien, vous avez réussi le test.
Oui. Et merci beaucoup à tous les gens qui nous ont suivis pendant cette heure et demie. On se donne rendez-vous, Francine, vendredi prochain, ça va être le 31.
Le dernier jour du mois de mars.
Dernier jour du mois de mars, à 9h30, à Canal M, c'est Au quotidien, 5e édition.
Vous pouvez rejoindre l'équipe